8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous écoutons des jeunes filles pour comprendre cette génération post-MeToo, née après 2000.
Alors moi, quand le mouvement MeToo a commencé, j'avais que 12 ans, donc c'était relativement jeune, et j'avais pas conscience de tout ce qui se passait.
On sort en jupe avec du rouge à lèvres, et ça y est, tout de suite, on nous insulte, quoi.
On va me traiter de chaudasse, tout ça, alors que non.
Et moi, ça m'est déjà arrivé dans la rue de me faire siffler ou de me faire traiter de pute.
Et ça me révolte un petit peu. Moi, j'ai pas eu le courage de dire non. Peut-être qu'ils m'auraient demandé, j'aurais eu le courage de dire non. Je sais pas, je saurais jamais.
Elles étaient enfants, adolescentes au moment de la libération de la parole des femmes aux États-Unis. Après les plaintes à l'encontre du producteur de cinéma Harvey Weinstein pour viol et agression sexuelle. Alors 5 ans après cette déflagration, aux répercussions internationales sur la condition des femmes et celle des hommes, quel est l'état des lieux dans un pays comme la France? Nous allons en discuter avec notre invitée. Bonjour Florence Pagneux.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous publiez Ce que nos filles ont à nous dire, la première génération post-MeToo aux éditions La Mer Salée. Et vous êtes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Loire-Océan. Vous avez travaillé entre autres à partir d'une étude sur près de 800 jeunes filles. Vous allez nous en parler. Et puis on va aussi revenir avec vous sur le tout dernier baromètre annuel sur le sexisme qui vient d'être publié cette semaine par le Haut Conseil pour l'égalité et également les témoignages recueilli par notre reporter Charlie Dupiau auprès de lycéennes de 16 à 18 ans.
8 milliards de voisins.
On échange.
Bonjour à tous les auditeurs des RFI.
8 milliards de voisins. On est ensemble.
Qu'ont-elles à nous dire dans cette classe de terminale du lycée polyvalent Roger Frison-Roche à Chamonix-Mont-Blanc, dans les Alpes? On va les entendre plusieurs fois dans l'émission, d'abord pour aborder la question des violences sexuelles. Anaïs, Louane, Olympia et Louise nous racontent l'arrivée de MeToo dans leur vie à l'automne 2017.
Alors moi, à ce moment-là, j'étais toute petite, je devais avoir 12-13 ans, donc je me souviens absolument pas. J'ai juste découvert le mouvement beaucoup plus tard. En rentrant au lycée, en tant que femme, on se sent assez vite concernée.
Alors moi, je pense que c'est sûrement à cause de mon fort caractère, on va dire. J'ai jamais laissé aucun garçon, ni fille d'ailleurs, me traiter mal, on va dire. Mais j'ai toujours été concernée. J'ai des amis très proches même qui ont vécu des agressions sexuelles. C'était il y a 2 ans. On était entre amis à une soirée. Il y en a une qui s'est éloignée et puis on l'a plus revue. Et quand elle est revenue, elle était... Elle tremblait, elle bougeait pas et elle nous a dit qu'elle s'était fait agresser. Elle arrêtait pas de pleurer, elle disait qu'elle saignait, c'était quelque chose vraiment de violent. Et j'en ai les frissons là quand j'en parle, mais ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle s'était fait agresser. Après, moi je pense que de comment elle nous l'a décrit, peut-être qu'elle veut pas admettre que voilà, c'était un viol. Mais ce qu'elle nous a décrit, pour moi, c'est un viol, clairement.
J'ai toujours eu cette vision de... Un homme, ça pense... forcément que à faire l'amour ou des choses comme ça. Violer, sans forcément avoir la notion de consentement, l'histoire de ma famille est beaucoup basée sur ça. Alors il y a une histoire avec ma grand-mère où elle s'est fait violer pendant toute son enfance par son beau-père. Donc ça a été un lourd secret de famille. Ma mère aussi a vécu pas mal d'agressions. Elle vivait à Bordeaux, du coup, dans les transports en commun, tout ça.
Pas dans le cercle familial.
Pas dans le cercle familial pour ma mère, mais pour ma grand-mère du coup si. Après, moi, où il y a eu pas mal d'agressions, que ce soit même des trucs assez insignifiants, mais se faire claquer les fesses en cours de sport parce que t'es en legging ou en soirée, tu voulais juste dormir tranquille et il y a un mec qui vient te voir et qui te viole pendant la nuit. Enfin, moi personnellement, ça arrivait une fois, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans.
C'était un garçon que tu connaissais?
Oui, c'était un ami à moi. J'allais m'endormir, j'étais tranquille, je me sentais bien. J'allais dormir et je le sentis arriver, je me suis dit bon, c'est brave, c'est mon pote, je lui fais confiance. Tous les autres lits sont pris et en fait, non, Il est arrivé, tranquille, j'ai fait « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Du coup, j'ai pas trop compris, et c'est quand il a commencé à caresser un peu partout que j'ai totalement fait off, et je peux pas avoir de réaction, j'ai pas envie. Et je pense que le pire, c'est que c'est vraiment la réaction des gens, parce que j'en ai parlé à des amis. Il y a des garçons, ils m'ont demandé « T'es habillée comment ?» J'étais en pyjama.
Enfin, on s'en fout comment t'étais habillée. Et est-ce que t'as eu des... mais t'aurais pu dire non
Oui, surtout des garçons. Les filles sont beaucoup plus compréhensives, beaucoup plus... je suis désolée, tout ça, alors que... Désolée les garçons, hein, mais... c'est beaucoup... ouais, mais t'as pas dit non, il pouvait pas savoir. Ouais, mais il a pas demandé. Peut-être que t'avais l'air un peu consentante. T'avais quoi comme comportement avant? Bah ouais, ok, j'avais regardé le film à côté de lui. On regardait un film tous ensemble. J'étais à côté de lui, posée. Il y avait nos épaules qui se touchaient à la limite. Depuis toute petite, je me suis toujours dit, je me laisserai jamais marcher sur les pieds, je serai une femme forte, qui dira non. Et en fait, je me rends compte que je suis pas cette femme-là et que j'ai pas eu le courage de dire non ou le courage de me défendre ou le courage de faire quelque chose qui aurait pu faire en sorte que ça arrive pas, quoi. Au début, on se rend pas trop compte, on se dit c'est faux, c'est moi, c'est de ma faute. Il y a vraiment la culpabilité et après ça se transforme un peu en colère. On a envie de tout casser, de vraiment lui faire comprendre que ça nous a traumatisé. J'ai été suivie psychologiquement, j'ai essayé d'en parler aussi autour de moi et la seule solution qu'on nous offre, c'est porter plainte. Sauf que c'est un cap super compliqué et passer le cap de se dire je vais peut-être ruiner sa vie, c'est compliqué. Il s'est excusé, ce qui est plutôt bien. Sauf que une excuse, ça répare vraiment rien et il y a pas vraiment de prise de conscience. C'est juste, je suis désolée. Et après, il oublie et je trouve que ça donne une vision des hommes très pessimiste, quoi. Ça donne pas beaucoup d'espoir et ça donne plus trop envie de croire en eux et de croire qu'ils peuvent être gentils.
Là où je te rejoins, c'est que je suis très mal à l'aise avec les hommes au-dessus de 25 ans, je pense, juste à partir de 25 ans. J'ai l'impression que c'est impossible de leur faire confiance, qu'il faut être en état de vigilance absolue. Et il faut vraiment genre beaucoup de temps pour que je fasse confiance et que j'arrête de me mettre en état de vigilance, il pourrait se passer quelque chose.
Et à quoi il est dû cet état pour toi ?
J'ai vu tellement de cas autour de moi, j'ai appris à pas faire confiance aux hommes et j'ai l'impression que aucun homme n'est net, en fait. Naturellement, je vais me positionner en mode « il faut faire attention ». Moi, l'expérience que je voulais raconter, du coup, en plus, maintenant que j'y repense, il était pas si vieux. C'était un fest-noz en Bretagne. C'est des fêtes, en gros, j'étais toute petite. Enfin, j'avais 10 ou 11 ans. Il y avait de la musique en plus, donc je dansais. Et à un moment, j'ai senti une main sur mes fesses. Je me retourne, il y a une grande foule. Je me dis, mais c'est qui ? Et en fait, j'ai vu le visage d'un homme qui souriait. Je me suis dit, c'est sûr, c'est lui. Mais il souriait d'un air gentil, en fait. Il était jeune, et je me dis, non, ça peut pas être lui. Donc j'ai recommencé à danser comme si de rien n'était et il l'a refait avec toujours le même sourire. Donc à un moment, juste, je suis partie de la foule et du coup, le retour auprès de mon père, je me suis dit, il faut peut-être que je lui en parle. Parce que si j'en parle pas maintenant, j'en parlerai jamais et j'ai pas réussi à lui en parler ce soir-là. Et j'arrive toujours pas à savoir à quel point ça m'a... En fait, ça m'a touchée du coup.
Alors moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que voilà, les hommes de plus de 25 ans, bon, ils sont déjà beaucoup plus grands que nous. Mais moi, les garçons de notre âge... Moi, je leur fais pas confiance non plus. Parce que moi, simplement, quand je vais à la salle de musculation et qu'ils se mettent derrière moi pour attendre et voir ce que je fais, et que quand j'ai fini, ils passent et je sens que leur t-shirt me touche ou que leurs mains me touchent, moi, ça me rend dingue, vraiment. Et ils ont mon âge, quoi. Ils ont 18, 19 ans. Ouais, moi, je crie, quoi. Enfin, je leur dis, cassez-vous, barrez-vous de là. Et des fois, voilà, on me reproche d'être méchante, d'être trop... T'es trop sur les nerfs tout le temps. Je suis pas sur les nerfs, c'est juste que ça s'appelle du respect. Moi, tu viens pas te mettre derrière moi pendant que je suis en train de faire mes exercices, alors que voilà, il y a toute la salle de sport, quoi.
Avec la vague MeToo, on parle de plus en plus de consentement dans les relations avec les hommes. Est-ce que vous avez eu des relations avec des hommes ? Et est-ce que c'est une question que vous posez dans votre couple ?
Les quelques expériences sexuelles que j'ai eues, est-ce que mon père va écouter ça, s'il vous plaît ?
Non.
les quelques expériences sexuelles que j'ai eues, il y a toujours eu vraiment des pauses dedans, en mode, est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce que ça te va, si c'est ça ? Qu'est-ce que tu veux maintenant ? Et en fait, je me suis rendu compte qu'à un moment, ça m'a saoulée. Et du coup, je m'en suis voulu parce que j'ai dit, mais à quel moment ça me dérange qu'on me demande mon consentement pour chaque étape ? waouh, je devrais aimer qu'il demande mon consentement à chaque étape, c'est normal au fond. Et du coup, je me demande si j'ai pas été un peu normée par ce qu'on peut voir, les représentations enfin, au cinéma, en mode ça va très vite, ça enchaîne, c'est beau, c'est romantique, waouh. Mais du coup, je pense qu'il y a quand même un juste milieu entre parler tout le temps, jusqu'au moment où on n'est plus dans le truc, quoi. Et où on ne dit rien du tout, on n'est pas sûr du consentement de l'autre et tout.
Même si j'ai dit que j'avais une vision assez négative des hommes, j'ai eu quelques copains. Et notamment là, je suis dans une relation qui dure un petit peu, là ça fait 2 ans. Et tout se passe bien. Il demande mon consentement à chaque fois, donc il est gentil, tout va bien. Mais même s'il est super gentil, j'aurai toujours cette vision de à tout moment ça peut passer et il va m'obliger à faire quelque chose. Et le moindre petit truc, je vais mal l'interpréter et je vais me dire ah bah en fait c'est un chien. C'est horrible dit comme ça, mais vraiment le moindre petit truc, même si c'est des trucs ridicules, je sais pas, je vais me changer, il va rentrer d'un coup, je vais me dire ah non, ou juste un soir on va être tranquille et il va me demander des photos. Et même si je sais que je peux répondre non, je vais me dire « Ah, mais en fait, il est là que pour mon corps. »
Après, ce truc d'être vigilant et tout, c'est hyper triste, mais c'est aussi une protection. Enfin, on sait tellement pas ce qui va se passer. Et c'est comme dire « Ouais, il y a une boîte de chocolat, il y en a 3 qui sont empoisonnées et les autres, on sait pas, quoi. » Et bah, c'est nécessaire, en fait.
Ça me fait particulièrement chier de devoir être en hyper-vigilance, parce que je sais que les gars... ils font pas gaffe à ça. Je vois pas les gars vigilants à chaque nouvelle fille qui s'approche. Quand ils voient une adulte, ils sont tout sauf menacés, en fait, je pense, au fond. Faudrait leur demander, mais je suis sûre qu'ils se posent pas ces questions-là.
Témoignage recueilli par Charlie Dupiot auprès de lycéennes de terminale à Chamonix, des filles ordinaires dans un lycée ordinaire, d'un pays avec un état de droit, et à l'arrivée, on a des histoires totalement anormales. Florence Pagneux, vous publiez « Ce que nos filles ont à nous dire, la première génération de MeToo ». On vient d'en entendre un échantillon hein, de cette première génération post-MeToo. Comment et pourquoi cette réalité existe bel et bien aujourd'hui en 2023.
Écoutez, c'est vrai que les témoignages sont assez édifiants dans ce qu'on vient d'entendre. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment le mot hyper-vigilance qui est vraiment accolé à ces jeunes filles. Et dans mon livre, c'est vraiment ce que j'ai essayé de montrer, ce que les filles traversent aujourd'hui en 2023. Donc pour ça, je me suis appuyée sur une enquête qui a été réalisée auprès de 800 jeunes filles dans les Pays de la Loire, de 13 à 18 ans, qui a été réalisée par une Nantaise qui s'appelle Alexandra Benamou et qui a été entourée de 2 sociologues. Et cette enquête, finalement, elle brosse un peu le quotidien et le portrait de ces jeunes filles dans tous les pans de leur vie, à la fois les violences sexuelles, si c'est sexuel, le harcèlement de rue, leurs études, etc. Et à partir de ce matériau-là, qui était extrêmement riche parce qu'il y avait beaucoup de verbatim et de témoignages de jeunes filles qui recoupent vraiment ce qu'on a pu entendre, j'ai interviewé des experts, je suis allée sur le terrain voir des associations, dans des lycées, pour essayer de sentir un petit peu ce que vivait cette génération. Et ce mot vraiment d'hypervigilance, il revient dans toutes les lèvres des jeunes filles que j'ai pu retenir et qui ne revient pas dans celle des garçons. Parce que pour le coup, il y a une vraie situation d'inégalité sur cette question de la menace sur son propre corps. Et ça, on peut effectivement en parler longuement.
Le Haut Conseil pour l'égalité vient de publier cette semaine son 2e baromètre annuel sur le sexisme. C'est en réalité le 5e état des lieux, réalisé en partie sur la base de sondages en ligne, hein, sur plus de 2500 personnes. C'est aussi un rapport qui témoigne d'une situation totalement alarmante, hein, selon le Haut Conseil pour l'égalité. Est-ce que vos constats se rejoignent ?
Ils se recoupent complètement, effectivement. Alors, c'est pas forcément les mêmes chiffres parce que c'est pas les mêmes âges, mais ça se recoupe vraiment sur la question du consentement. Dans l'enquête que j'ai pu suivre, il y a quand même 6 jeunes filles sur 10 qui disent avoir eu un rapport amoureux sans en avoir vraiment envie. Et cette question du consentement, elle se rejoint aussi dans les résultats du HCE. Et je crois que ça rejoint aussi l'absence ou la quasi-absence de cours d'éducation à la vie affective et sexuelle dans les établissements scolaires, qui est pourtant obligatoire depuis 2001. Mais quand on regarde les enquêtes qui ont été faites sur ces sujets par des instances très officielles, on voit qu'elles sont très très peu mises en œuvre en réalité. Et quand elles sont mises en œuvre uniquement sous l'angle médical. C'est-à-dire qu'on va parler de prévention des grossesses non désirées, on va parler de maladies sexuellement transmissibles, mais à aucun moment on va se pencher sur justement la question du consentement, les relations entre les filles et les garçons. Et c'est vraiment ce nœud-là qui manque. Plusieurs associations que j'ai pu interviewer m'ont dit il faudrait vraiment qu'on mette en place aujourd'hui et partout des cours d'éducation à la relation entre filles et garçons. Parce qu'on a l'impression, quand on écoute d'ailleurs ces ces témoignages de lycéennes, qu'ils n'arrivent pas vraiment à se parler, et puis ils sont côte à côte dans des mondes un petit peu différents, et ils n'ont plus du tout la même vision des choses. Et je pense que c'est encouragé aussi par le fait que les jeunes font leurs premières éducations sexuelles via les réseaux sociaux, via Internet et via un accès de plus en plus précoce à la pornographie qui montre une image très dégradée de la femme. Et c'est ce que dit effectivement le HCE dans ses conclusions sur la nécessité de réguler les contenus en ligne auxquels nos jeunes ont accès.
Alors, vous citez des chiffres concernant les jeunes filles. Dans votre livre, il y a aussi des chiffres concernant les hommes, et ce sont peut-être même les plus surprenants. 4 jeunes hommes sur 10 considèrent qu'une relation sexuelle sans consentement n'est pas un viol.
Effectivement, c'est ce que les féministes appellent la culture du viol, qui serait très ancrée chez les jeunes générations, ce que dénonce aussi le HCE aujourd'hui. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur cette question de l'absence d'éducation par des adultes formés à la bonne relation entre filles et garçons. Tout se passe finalement sur les réseaux sociaux, où on trouve le bon comme le pire. Je pense notamment à la question du cyberharcèlement, dont les filles sont majoritairement victimes. La question du partage de photos intimes aussi, les questions de partage de ces photos quand des jeunes filles qui sont en couple et qui acceptent d'être prises en photo nues ou dans des positions un peu suggestives avec leur petite amie, elles ne s'imaginent pas que quelques mois après, une fois la rupture consommée, le garçon va diffuser à l'ensemble de son collège ou de son lycée ses photos. Et ça, c'est des questions d'éducation qui ne sont pas faites aujourd'hui ou pas suffisamment dans les établissements scolaires et qui méritent vraiment d'être prises à bras-le-corps.
L'enquête sur laquelle vous avez travaillé, ce sont des jeunes filles qui sont aussi bien de milieu urbain que de milieu rural. Les jeunes filles qu'on entend dans notre émission les témoignages recueillis par Charlie Dupiot, donc c'est à Chamonix, dans les Hautes-Alpes. Est-ce qu'aujourd'hui, les filles, partout dans le pays, finalement, ont d'une certaine manière le même vécu avec les garçons ?
Exactement, c'est vraiment ce que cette enquête au fil du temps menée en Pays de la Loire a démontré. Elle a été faite aussi bien dans des communes très petites, très rurales de Vendée par exemple, ou dans une grande ville comme Nantes. Et à chaque fois, les réponses sont quasiment les mêmes. Donc finalement, le vécu de cette jeune fille, même s'il peut s'exprimer différemment, il est similaire. Je pense par exemple à la question du harcèlement. Ces jeunes filles, quand elles sont à la campagne, elles vont pas le vivre de la même manière qu'en ville. Mais pour autant, elles vont le vivre aussi. Ça va être plutôt mené par leurs voisins, les fils de leurs parents, etc. Et du coup, ce sera encore plus difficile à dénoncer. Tandis qu'en ville, il y a une question plus anonyme. Mais finalement, le vécu, il est systématiquement le même. Et c'est ce mot vraiment d'hypervigilance qui revient à chaque fois dans leur discours, qu'elle soit en ville ou à la campagne.
Ce mot d'hypervigilance, à l'époque des premières vagues du féminisme, on parlait plutôt d'émancipation, de combat. Est-ce que c'est ce qui différencie les jeunes filles, après la Deuxième Guerre mondiale notamment ?
Alors c'est ce que je vois dans l'évolution du combat féministe aujourd'hui, cette nouvelle vague féministe qui a commencé, je dirais, dans les années 90, d'après les historiennes. C'est un combat qui est beaucoup centré sur le corps et sur la protection de son corps et sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est vraiment ça qui rassemble aujourd'hui la galaxie féministe, qui est extrêmement diverse, qui est parfois divergente sur certains points. Mais le point de rassemblement, c'est vraiment ça, c'est la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et la préservation du corps des femmes. Elles en ont assez d'être sans cesse renvoyées à leur sexualité. Et j'ai suivi une jeune association féministe nantaise qui s'appelle Les Mains Violettes. Et son point d'ancrage, finalement, c'est de proposer aux jeunes filles de porter chaque jeudi un t-shirt avec une main violette pour alerter sur la question des violences. Et ça fonctionne très bien. C'est un engagement qui plaît beaucoup parce que c'est qui rejoint finalement des préoccupations très concrètes et très fréquentes de ces jeunes filles.
Touche pas à mon corps. On va retrouver justement plusieurs adolescentes en Haute-Savoie. Sarah, Morgane, Olympia, donc toujours lycéenne en terminale. Au micro de Charlie Dupiot, elle nous parle des stéréotypes de genre, de ce qui est attendu par l'ensemble de la société quand on est une fille, quand on est un garçon.
Ce qu'on attend d'une fille, je pense surtout dans le cadre scolaire, mais en général, elles sont censées être plus timides, avoir plus de mal à intervenir en classe. Peut-être on est censé être plus sensible. Mais oui, parfois, en fait, j'ai l'impression que je ne suis pas une fille, que dans l'idée commune, je ne suis pas une fille. Moi, j'ai tendance à oser parler de ce que je pense, prendre la parole ouvertement, même si ça peut en déranger certains. Typiquement, excusez-moi, mais quand je vais à la piscine, je vérifie pas si je suis parfaitement épilée. Non, je m'en fous. On sent qu'il y a une différence de traitement, qu'il y a une différence de si on est une fille ou si on est un garçon. C'est-à-dire que, par exemple, je faisais de la gym et notamment du parcours. Et donc, j'étais allée à un stage là-bas. Enfin, un stage de parcours et de cascade.
Le parcours, c'est une pratique sportive qui consiste à sauter sur des obstacles.
Ouais, c'est un peu de la gym urbaine. Et globalement, même si c'est de plus en plus féminin, ça reste une pratique encore assez masculine. Et donc j'avais un plutôt bon niveau et j'étais venue avec un pote qui avait à peu près le même niveau que moi. Et en fait, on nous fait faire des exercices et lui, il a beaucoup plus vite été amené à des trucs un peu dangereux, un peu impressionnants que moi aussi j'avais envie de faire. Mais moi, je leur ai demandé si je pouvais le faire et en gros, ils m'ont dit que non parce que ça serait trop effrayant pour moi.
Qui a pu te faire ce genre de remarques ?
Bah, les entraîneurs. En fait, il y a un côté qui est parfois ultra frustrant avec le fait d'être une fille parce qu'on est toujours considéré un peu moins bien.
Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis parce que le matin, quand j'ai pas le temps de me maquiller parce que je suis en retard et que j'arrive en cours et qu'ils me disent « toi, t'as pas dormi de la nuit » ou « là, t'es énervée » ou que quand je suis pas contente et qu'il y a un truc qui va pas, je parle pas et qu'on me dit « arrête d'être chiante, t'as tes règles », ça, c'est un truc qui m'énerve. Tu peux pas me dire parce que je suis énervée ou qu'il y a un truc qui s'est passé et que je suis pas contente, t'as tes règles. Non, enfin, il n'y a pas à dire ça.
Les gens ont tendance à dire que les filles doivent porter par exemple des jupes ou des robes, etc. et être très féminines. Alors que moi, je m'habille pas tout le temps féminin. Genre là, aujourd'hui, je suis en sweat, en pantalon, etc. Et moi, ça m'est déjà arrivé dans la rue de me faire siffler ou de me faire traiter de pute parce que j'avais du rouge à lèvres, parce que j'avais une jupe ou une robe. Et je trouve ça absolument pas normal, même si on a envie de mettre une jupe ou une robe. C'est de notre droit, ça veut pas dire qu'on est une pute ou qu'on est une fille facile. Même en été, quand par exemple on porte un short ou des tenues d'été, quoi. Alors que les garçons, ils mettent les mêmes choses, des shorts, etc. On leur fait pas autant de réflexion, alors que nous, on en aura. Et ça commence à être vraiment insupportable d'avoir toutes ces remarques tout le temps. Ou même des garçons, en fait, nos amis à nous, peuvent nous dire « Non, mais là aussi, il faut pas s'étonner s'il se passe ça. » Non, j'ai envie de m'habiller comme ça, je le fais.
Comment vos tenues sont perçues par vos parents ?
Du côté de mes parents, j'ai souvent le droit à des réflexions du type « là, c'est trop court, va te changer, là, c'est trop décolleté ». Mais globalement, je pense que tout le monde autour de la table peut attester, je suis rarement habillée de manière très extravagante.
Moi, par exemple, je pense que plus tard, je vais travailler dans la mode. Et c'est ce que je veux faire. Je veux aller faire une école de mode. Et tout le temps, on me dit « bien sûr, t'es une fille, tu veux travailler dans la mode, tu veux avoir des habits, c'est ce que tu veux faire ». Alors que non, moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus que ça. Mais voilà, si je commence à dire « oui, moi, je veux être charpentier », on va me dire « mais t'es sérieuse ? Enfin, pourquoi ça ? T'es une fille ?»
Moi, je voudrais devenir diplomate et faire de la recherche éventuellement en géopolitique, en histoire, etc. Donc faire des études longues. Et surtout, diplomate, c'est un métier qui est difficilement compatible avec la vie de famille, surtout pour une femme, je pense, donc, comme il y a la mobilité internationale, etc. Et quand j'ai annoncé ça à mes parents, j'ai eu cette réaction qui a été « oui, mais à un moment, il faudra que tu songes à qu'est-ce que tu vas laisser derrière. » Sous-entendu, va falloir que tu aies des enfants si tu veux laisser quelque chose derrière toi. C'est un peu dur quand même d'entendre ça. Parfois, c'est même assez décourageant. Mais bon, j'ai envie d'être diplomate. et je le serai.
Florence Pagneux, 84% des filles dans l'étude sur laquelle vous avez travaillé, qui porte sur près de 800 jeunes filles, déclarent qu'elles s'interdisent de porter certains vêtements, y compris en dehors de l'école. On est sur un problème spécifiquement féminin, c'est-à-dire que, comme les filles le disent dans les témoignages qu'on entend réalisés par Charlie Dupio, tout les ramène toujours à leur propre corps.
C'est exactement ça. En fait, elles n'ont pas la même liberté que les garçons face à leur armoire. Et tous les matins, quand elles s'habillent, si elles vont mettre une jupe, elles se disent « Oula, si c'est trop court, je vais avoir des réflexions sur le sujet. Si je mets un haut dénudé à bretelles parce qu'il fait chaud l'été, je risque d'avoir des problèmes. » Elles sont sans cesse en train de se questionner, d'évaluer, de se dire « Est-ce que la tenue que je vais mettre aujourd'hui va me provoquer finalement des situations auxquelles j'aurais pas envie d'être confrontée ?» Donc effectivement, ça c'est vraiment une inégalité assez forte entre filles et garçons parce que vous entendrez peu de garçons vous dire qu'ils font attention à la façon dont ils s'habillent le matin par rapport aux personnes qu'ils vont croiser dans la rue. Donc ça, c'est vraiment une préoccupation très forte de toutes les jeunes filles que j'ai pu interviewer. Et alors, il y a deux grandes écoles. Il y a la technique du sac poubelle, on appelle ça. Mmh. C'est les jeunes filles qui mettent plein de couches de vêtements quand elles partent en soirée parce qu'elles savent que sur le chemin du retour, elles seront très couvertes et personne ne remarquera qu'elles ont des décolletés ou des jupes courtes. Et puis, il y a l'autre technique, c'est les personnes qui se disent « Bon, ok, je mets une jupe, mais je vais mettre des chaussures coquées parce que si on m'embête, je pourrais me défendre. Ou alors, je prends mes clés dans ma main le soir quand je rentre parce que ce sera un moyen de me défendre si on m'agresse. Je me mets à mon téléphone pour faire croire que j'appelle, alors que j'appelle personne, pour montrer que je suis pas disponible pour entamer une conversation. Tout ça, toutes ces stratégies finalement d'évitement, c'est quelque chose qui concerne la grande majorité des jeunes filles. Elles sont quasiment 8 sur 10 à dire avoir vécu du harcèlement de rue. Mmh. Et ce harcèlement de rue, il commence très très tôt, dès 12, 13 ans. Les jeunes filles, dès qu'elles le corps finalement se sexualise et qu'elles deviennent autre chose que des enfants, elles subissent les sifflements, les réflexions, les remarques, les interrogations des adultes. Et c'est souvent des adultes majeurs d'ailleurs. Il y a eu très récemment un outrage sexiste qui est sorti par le gouvernement pour essayer de lutter contre le harcèlement de rue. Et les premiers retours sur ces outrages sexistes, on voit qu'ils sont commis majoritairement par des hommes et des personnes majeures.
Et ça veut dire qu'elles organisent leur vie en fonction de ce risque hein, de harcèlement de rue, mais pas seulement dans le choix de leur tenue, dans leur présence même dans l'espace public.
Effectivement, beaucoup de sociologues disent qu'à partir de l'adolescence, les femmes s'effacent de l'espace public, c'est-à-dire qu'elles le traversent mais elles s'y arrêtent pas. Et c'est ce qu'on voit finalement quand on se déplace dans certaines villes. On voit des grappes de garçons adossées à des halls d'immeubles par exemple, ou dans des places. Et puis les femmes, les filles qui traversent rapidement pour ne pas se faire alpaguer au passage. Et ça, c'est un vrai souci. Et beaucoup de villes prennent ce problème à bras-le-corps. Il y a de plus en plus de villes qui développent des systèmes d'urbanisme non genré pour essayer justement de recréer une circulation plus fluide de tout le monde dans la ville. Ça se passe aussi au niveau des cours de récréation. Il y a de plus en plus d'écoles qui veulent créer des cours de récréation qui sont plus vertes, qui proposent plus d'espace de déambulation, plus d'espace pour se poser et qui n'ont plus un espèce de jeu de ballon au centre où les garçons font un peu la loi et où les filles sont disséminées sur les marges. Donc ça, c'est vraiment un mouvement qui commence à émerger.
Florence Pagneux, vous avez évoqué tout à l'heure le rôle d'Internet, notamment les réseaux sociaux, l'accès à la pornographie dès 10-12 ans, pour les filles comme pour les garçons. Est-ce que ça suffit à expliquer finalement un certain recul ? Parce que quand on regarde aussi, alors certes, votre étude sur laquelle vous vous êtes basée, en tout cas qui porte sur près de 800 jeunes filles, mais aussi le dernier baromètre du Haut Conseil pour l'égalité, tout semble ramener à cet Internet pour expliquer le recul et l'insécurité finalement dans laquelle vivent les filles à l'heure actuelle.
Non, je pense qu'on peut pas mettre tout sur le dos des réseaux sociaux. C'est un ancrage qui est très profond et très lointain, cette question des inégalités et du sexisme. Je sais pas d'ailleurs si on peut parler de recul. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment un hiatus entre la libération de la parole, le fait que tout le monde en parle davantage, que les filles aient beaucoup plus voix au chapitre, et la réalité des actes où elles sont massivement victimes. Finalement, moi j'ai plutôt l'impression qu'on est arrivé à un point de bascule où tout le monde sait qu'il y a du sexisme, que les femmes peuvent être en danger dans l'espace public, mais pour autant les choses ne bougent pas concrètement. Et c'est ça que cette génération de jeunes filles, c'est pour ça que le livre « Ce que nos filles ont à nous dire », elles nous disent clairement « on ne veut plus de cette situation, nous on ne le supporte plus ». Et ce que je trouve intéressant dans cette génération qui arrive, récemment encore j'étais dans un collège et je vois que les filles collégiennes, donc plutôt jeunes, sont extrêmement véhémentes sur ces sujets-là. Ils sont vraiment en attente que la société bouge. Donc on est peut-être à mi-chemin, au milieu du gué, et on espère que dans les prochaines décennies les actes et les paroles vont s'harmoniser.
Ouais. Sauf qu'elles ne parviennent pas à réellement parler avec les garçons de ces sujets-là.
C'est tout le problème. Il y a vraiment un lien à recréer finalement entre filles et garçons, et ça c'est très difficile parce que c'est très ancré. Je faisais récemment un sujet sur les amitiés enfantines avec un sociologue. Il racontait qu'à l'école primaire, les enfants s'associent massivement avec des enfants du même âge et du même sexe. 80% des enfants ont pour meilleur ami un enfant du même sexe qu'eux. Et ça continue au collège. Moi je vois très bien, j'ai une fille collégienne, et dès qu'elle peut être à côté d'une fille en classe, elle va se mettre à côté d'une fille, et surtout pas se mettre à côté d'un garçon. Donc il y a vraiment quelque chose à faire pour vraiment recréer du lien entre les uns et les autres. Et alors j'ai interrogé très récemment une collégienne sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remettre un petit peu du lien entre les deux. Et elle proposait de mettre des boîtes aux lettres dans les collèges, une pour les filles, une pour les garçons, où on poserait des questions de manière anonyme aux uns et aux autres, et où chacun pourrait répondre sur des sujets un petit peu intimes ou difficiles à aborder de face, et se répondrait par lettre interposée. Je trouvais ça assez joli de passer par l'écriture finalement, ouais, pour réapprendre à se parler. Donc il y a plein de choses à imaginer effectivement, mais il faut que ça passe de plus en plus tôt dès l'école et le collège.
Ouais. Réapprendre à se parler entre les filles et les garçons, et surtout apprendre à se comprendre. On en discute avec vous, Florence Pagneux, ce sera juste après Little Mix chez 8 milliards de voisins. One foot in the club, everybody watch me. One pop of the booty, everybody love me. Ain't the reason I'm cocky. I make myself feel sexy. Fan of myself, I'm standing myself. I love me so much, I put my hands on myself. Fan of myself, I'm standing myself. I love me so much, I put my hands on myself.
feminist tip.
Hell yeah!
Écoutez 8 milliards de voisins sur RFI. On vient d'entendre Florence Pagnot. Je ne sais pas si vous connaissez Little Mix. Hein, ça fait fureur en Grande-Bretagne. Et elles sont, c'est un groupe de filles qui sont passées un peu de l'ambiance girl power de l'époque des Spice Girls. Hein, ça date déjà à un féminisme beaucoup plus assumé dans leur dernier album. Avec vraiment quatre filles qui revendiquent l'indépendance économique des femmes. On est vraiment sur une sorte de la reprise de pouvoir. Hein, finalement des filles, Florence Pagneux.
Oui, je crois beaucoup à l'influence de la pop culture sur justement cette émancipation des filles. Et on voit bien que au niveau des séries, au niveau de la musique, même au niveau du cinéma, les choses bougent quand même.
Avec parfois même des appels à de nouvelles princesses Disney, beaucoup plus rebelles.
Exactement, exactement. Il y a des grandes différences entre la Blanche-Neige d'hier et puis la princesse rebelle d'aujourd'hui, même la Reine des Neiges. Enfin, on voit bien que même dans l'imaginaire collectif du cinéma, les héroïnes sont beaucoup moins stéréotypées qu'auparavant. Donc finalement, ces choses-là, elles façonnent aussi l'imaginaire des enfants et à terme, ça finira par porter ses fruits. Il faut être optimiste aussi.
Florence Pagneux, vous publiez « Ce que nos filles ont à nous dire », la première génération post-MeToo aux éditions La mère salée. Des filles, on l'a entendu, qui s'affichent plus clairement dans cette troisième vague féministe. Et c'est une prise de conscience qui dépasse largement les clivages sociaux, on l'a dit. On va entendre Anaïs, Morgane, Louane. Elles ont entre 16 et 18 ans. Et notre reporter Charlie Dupiot leur a posé une question. Où en est-on aujourd'hui, selon vous, sur l'égalité femme-homme? Morgane est la première à répondre, comme si elle attendait finalement la question avec impatience.
Bon, on va tout de suite briser la glace. Très honnêtement, tout le monde est là, oui, ça a avancé, etc. Franchement, parfois, même dans le monde professionnel, il y a des mesures qui ont été mises en place. Maintenant, limite, il y a les quotas font qu'on recrute des femmes exprès pour avoir des femmes, même si elles sont incompétentes. La vérité, c'est que je pense qu'il y a encore des difficultés de perception des femmes dans le monde professionnel et dans la vie tous les jours.
Bah, moi, je suis pas totalement d'accord avec Morgane. Alors oui, c'est toujours pas parfait, mais je trouve qu'on est parti de loin et qu'il y a quand même eu pas mal de travail avec la reconnaissance de femmes scientifiques, des choses comme ça. Il y a aussi le droit de vote. Même si ça va très lentement, je te l'accorde, ça avance, mais ça va mettre du temps. Ça peut pas changer du jour au lendemain.
Et moi, en fait, sur le monde du travail, je sais pas encore comment ça se passe. En fait, j'ai pas vu assez d'études. Si, en fait, si j'en crois ce qu'on dit, du coup, c'est assez connu. Les femmes ont un salaire, ont moins de salaire pour un travail égal. Bah, du coup, je trouve ça super injuste. Mais j'ai quand même hâte de voir comment ça se passe en entreprise pour de vrai. Mais un truc que je soupçonne quand même, c'est que pour arriver au même poste ou un haut poste, une femme va devoir faire deux fois plus d'efforts. Quelles que soient ses compétences et tout, elle va devoir charbonner deux fois plus, et c'est ça que je trouve injuste aussi.
Et qu'est-ce qui te fait dire ça?
Bah, je sais pas, du coup, c'est ce qu'on m'en dit, c'est ce que les adultes m'en ont dit, c'est comment bah, vous trois, les filles, vous en parlez et tout. Et c'est des choses que j'entends tout le temps. J'ai aucun doute sur le fait que le monde du travail est injuste pour les femmes.
Typiquement, moi, comme j'ai dit précédemment, j'ai envie de devenir diplomate, j'aime bien étudier, je suis assez curieuse. Et en fait, très souvent, quand je parle d'un sujet qui me passionne avec quelqu'un, on me rabaisse avec des « attention les chevilles, tu manques d'humilité », etc. Alors que, en fait, j'ai l'impression que dans notre entourage, les garçons, on les ramène jamais à leur manque d'humilité, jamais on les rabaisse sur ça. Alors que nous, c'est toujours « on doit être humble, on doit être modeste ». Mais moi, ça me saoule, on est marre.
Sur le sujet de l'égalité homme-femme, qu'est-ce qui vous révolte le plus?
Bah, moi, c'est sur l'idée du couple. Je reviens un peu sur mes parents, mais c'est vrai que c'est un peu l'exemple que j'ai. Et ce qui me révolte pas mal, c'est les différences de charges de travail, de tâches ménagères. Et en fait, typiquement à la maison, ma mère qui a un gros travail, donc qui a beaucoup d'heures de travail, elle s'est toujours occupée de tous les enfants, d'emmener les enfants à la garderie, à l'école, au collège, au lycée, de faire les tâches ménagères, de s'occuper de la vaisselle, etc. Et en plus d'un travail qui lui prend beaucoup de temps et qui a c'est une grosse charge émotionnelle. Elle est psychiatre en milieu pénitentiaire. Et mon père, en fait, à chaque fois qu'on aborde le sujet, il est sur un truc « Ah oui, mais moi, c'est pas mon rôle. » Et donc, moi, je m'occupe du jardin, je ramène l'argent, je fais les comptes de la maison à la rigueur, mais c'est pas mon rôle.
Ça, c'est quelque chose qui te révolte, c'est ce que tu viens de dire. En quoi tu vas essayer de changer ça dans ta vie ?
Moi, je me suis toujours imaginé l'avenir en tant que personne très indépendante, donc qui est capable de s'occuper de tout. Mais indépendante, c'est-à-dire que que je suis capable de m'occuper du bois, que j'ai envie de ramener mon propre argent à la maison, que j'ai envie d'avoir mes propres comptes bancaires, etc. Et même depuis que je suis toute petite, ma mère m'a toujours dit « Morgane, l'indépendance financière, c'est essentiel ». Pour l'instant, je ne me pose pas trop la question du partenaire, mais c'est sûr que je n'ai pas envie d'être la daronne de quelqu'un, très clairement. Donc, quelqu'un qui sait faire tourner une machine, au moins, le B.A.B.A. Enfin, j'ai dû apprendre à mon père à 11 ans de faire tourner une machine. Quelqu'un qui sait faire sa propre nourriture. Je me suis dit peut-être un chef cuisinier. Voilà, si on a quelqu'un qui écoute la radio.
Là, on est sur une société quand même qui va libérer de plus en plus l'amour. On n'est plus obligé d'être casé. On peut multiplier les coups d'un soir, c'est OK. Mais malgré ce qu'on en dit, il y aura toujours l'homme qui multiplie les femmes est un prince charmant. Ça doit être un don juan, c'est un grand séducteur. Et la femme, c'est une salope. Globalement, c'est le terme. Hein, ça veut dire femme libérée dans sa sexualité. Et donc, on va l'insulter pour ça. Donc ça, je comprends pas. J'en ai un peu été victime. Ça y est, on me traite de charo et on me fait culpabiliser pour ça.
Charo, ça veut dire quoi?
Charo, c'est charognard. On se jette sur tout ce qui bouge, tout ce qui est vivant, ça respire, c'est bon, je l'embrasse. Non, et voilà, on me l'a un peu fait sentir en mode...
Mais qui?
Du coup, c'est des amis. Mais du coup, dans mon entourage proche, moi, je suis une charo, c'est mal. Et mes potes, je vois un gars qui revient après une soirée, qui a embrassé une fille avec qui il s'est pas mis, champion. Et voilà, et moi, c'est vraiment cette différence qui me révolte le plus.
Ouais.
Voilà. On va pas m'applaudir, moi, j'ai l'impression. Du coup, je sais que je vais pas m'arrêter d'aller rencontrer des gens, enfin des mecs, du coup, de me sentir séduisante et tout. Voilà, c'est quelque chose que je revendique, au fond. J'aimerais trouver un mot plus joli que charo, en fait. Il faut que je réfléchisse, je sais pas, je suis libre.
Ouais,
esprit libre.
Ouais, libre, c'est bien.
Libre. Voilà, ça me va très bien.
Être une femme libérée.
Du coup, la prochaine fois qu'on me dit « t'es une grosse charo », je fais quoi? Je dis « non, je suis libre ».
Voilà.
Des témoignages recueillis par Charlie Dupio à Chamonix, en France, dans les Hautes-Alpes. Et merci surtout à Noam Soula aussi, professeur de français qui a rendu ses rencontres possibles avec 6 de ses élèves de terminale au lycée Roger Frison-Roche, donc à Chamonix. Les enseignants, Florence Pagneux, les enseignantes aussi, sont souvent mieux informées de ce que vivent les filles, parfois mieux que les parents eux-mêmes, non ?
Oui, effectivement, mais il y a plusieurs études qui montrent que les enseignants, eux aussi, sans le vouloir, ils véhiculent des stéréotypes sexistes. Par exemple, dans leur façon de s'adresser à leurs élèves, ils vont avoir tendance à être plus exigeants avec les garçons, à davantage leur donner la parole ou interagir avec eux, et à moins faire attention aux filles parce qu'ils pensent qu'elles sont immédiatement scolaires et que ça va rouler tout seul. Et ça a été démontré par plusieurs sociologues de l'éducation, et il y a de plus en plus de formations qui existent pour les enseignants pour débusquer un petit peu ces mauvaises habitudes. Et par exemple, quand ils supervisent un TP de chimie, faire en sorte que ce soit pas toujours les garçons qui soient dans la manipulation de l'expérience et les filles qui soient à la prise de notes. C'est des petites choses toutes bêtes, mais mises bout à bout, qui encouragent l'idée que les filles sont moins compétentes que les garçons dans certaines matières. Et je pense en particulier aux matières scientifiques. L'enquête au fil du temps, elle démontre quand même un chiffre assez fort. Il y a 4 jeunes filles sur 10 qui craignent de ne pas pouvoir exercer le métier de leur rêve. Et elles expliquent ça en disant « j'ai peur de pas être à la hauteur, je sais pas si je pourrais faire des études longues, j'ai pas la force suffisante ». Elles sont sans cesse en train de se diminuer et de s'auto censurer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi propre aux filles et qui se distingue des garçons qui ont une confiance absolue en leurs compétences parce qu'on, depuis leur plus jeune âge, on les éduque de cette manière-là. Et il y a une étude très intéressante qui montre que pour aller en filière scientifique, les filles, il faut qu'elles aient une moyenne super haute en mathématiques pour s'y autoriser, alors que les garçons, même s'ils ont 10 ou en dessous de la moyenne, ils hésiteront pas à aller dans à postuler dans cette voie scientifique. Donc c'est vraiment révélateur de cette question du manque de confiance en elles des jeunes filles.
Florence Pagneux, on l'a entendu dans ces témoignages de lycéennes, il y a quelque chose à la fois du désespoir, de l'espoir, de l'humour. Alors aujourd'hui, leur combat, l'émancipation aussi, prend quelle forme ?
Ben, l'émancipation, il prend plein de formes. Il est à la fois dans les relations. Cette jeune fille qui nous dit je suis libre et je veux être libre, c'est assez beau à entendre, mais il passe aussi justement par le fait de gravir des échelons dans le monde du travail et de ne pas s'interdire certaines fonctions. Je pense que les choses, elles bougent pas mal. Moi, dans ma région, il y a une entreprise ou une association qui s'est créée qui s'appelle les Nouvelles Oratrices. Et c'est des femmes entre elles qui se forment pour arriver à mieux prendre la parole en public et à mieux s'imposer dans un auditoire où les hommes ont parfois tendance à être dominants. Et cette association, elle a formé des jeunes filles tout récemment au grand oral du baccalauréat pour qu'elles aussi, elles se sentent plus armées. Donc on voit quand même qu'il y a toute une série d'actions et d'initiatives qui font en sorte d'aider les filles à se sentir plus armées pour rentrer dans le monde du travail et pour s'y insérer plus facilement.
Oui, alors il y a leur combat, leur émancipation, mais il y a aussi la réponse et la réaction de notre société.
Alors oui, ça c'est ce que le HCE nomme le phénomène de backlash, où à force de parler d'émancipation féminine, de discours féministe, il y aurait une réaction en face qui voudrait cantonner les femmes à leur rôle inférieur. Je ne sais pas si elle est aussi forte que ça, moi, cette réaction. Il faut faire attention à ce qu'on voit circuler sur Twitter ou dans les journaux. Peut-être que la situation est moins terrible que ce qu'elle en a l'air dans les discours. En tout cas, moi, ce que je vois, je côtoie beaucoup de collégiens et de lycéens pour mes différents travaux journalistiques, et je vois quand même aussi pour un peu les défendre, des garçons qui sont prêts à défendre leur congénère. Je pensais à un jeune de 3e qui me disait « moi je comprends pas pourquoi en tant que garçon je deviendrai pas professionnel du soin, enseignant, infirmière. Je sais bien que 9 femmes sur 10 travaillent dans ces milieux-là, mais moi je m'y vois très bien aussi. » Donc il faut aussi penser à tous ceux qui sont en soutien des filles, et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, c'est sur eux.
Oui, alors ceci dit, vous citez évidemment des chiffres qui sont terrifiants, et d'ailleurs ça correspond à ce qu'on a entendu dans les témoignages. Lorsque les filles sont agressées sexuellement, elles ne portent pas plainte.
Rarement. Ah oui, et puis elles sont rarement... Enfin, ça s'arrange là aussi. Il y a de plus en plus de policiers qui sont formés à la prise de plainte de ces jeunes femmes. Mais effectivement, je raconte une histoire terrible d'une jeune femme qui a vécu des violences conjugales très jeune. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je pensais pas que les violences amoureuses pouvaient commencer dès la mise en couple à 15, 16 ou 17 ans. Et cette jeune fille a porté plainte finalement contre son ex-petite amie. La plainte a été classée sans suite. Et elle raconte que la façon dont elle a été accueillie par les forces de police n'était pas du tout à la hauteur qu'elle espérait. Elle a dû donner des détails très crus, on lui a posé des questions très précises. Alors c'était pour faire avancer l'enquête, mais c'était un peu sans pincettes et elle s'est sentie un peu agressée une nouvelle fois. Donc on peut comprendre que les femmes, elles hésitent à porter plainte quand elles ne se sentent pas accueillies dans la réception de leurs paroles. Donc je sais que les choses bougent et que des formations, des actions sont mises en place pour améliorer la libération de cette parole et sa prise en compte, mais ça nécessiterait des années encore, parce que les magistrats, eux aussi, doivent être mieux formés à ces situations-là. Moi, quand je vais parfois au tribunal faire des articles,
articles, quand j'entends le nombre d'affaires de violences conjugales où des hommes ont beaucoup de mal à reconnaître finalement qu'ils sont auteurs de violences. Je me souviens d'un homme qui disait « Mais non, je l'ai pas menacé de mort, c'est pas vrai, c'était pour lui faire peur, mais c'était pas grave. » Il ne mesure pas en fait la violence d'un propos, la violence d'un acte envers une femme. Et donc il y a vraiment encore beaucoup, beaucoup de travail sur ce sujet à faire, évidemment.
Merci Florence Pagneux. Vous publiez « Ce que nos filles ont à nous dire », la première génération post-MeToo. C'est publié aux éditions La Mer Salée. Merci infiniment d'avoir été en liaison avec nous de Nantes.
Merci beaucoup.
On se quitte chez 8 milliards de voisins avec la Nigériane et Arastar. Et dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI. But you must hustle if you want job. You know, finish, they won't fight us. If them, they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, no yeah, what they want. Telling me, could deny my fantasy. You want to check if my dad be no wrong. But he did rush, he did rush by when he be much. Now gonna make my top he did rush. The kind money we touch. Yeah, he did rush by when he be much. No be hype, everybody they crush. There's no darling with us. Quelques instants, le journal sur RFI. De voisins avec bien sûr toute l'équipe, Damien Roucou, Valentine Lemaire, Divine Bertou, Romain Dubrac. Et puis bien sûr les voisins et les voisines, sachez que pendant le week-end vous pouvez tout à fait télécharger nos émissions si vous les avez manquées durant la semaine. Tous les sujets sont annoncés sur les plateformes de téléchargement. Dans quelques instants, le journal sur RFI.
De voisins, c'est fini.